veut plus rien dire. Ma tête tourne, 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 tourne comme une bête enfermée. Je suis folle à nier. Maudite société, n'as-tu rien d'autre à nous offrir que les mots et les images de ta télé? N'as-tu jamais entendu dans cette jaune, 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 jaune les cris et les plaintes des forces à modèle? À quoi vont crier dans cet univers des la souffrance et le supplice sont vraiment double, 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 double. Quand pour pouvoir cantiner, je dois boulonner. Mais quel est le goût de votre prétendue liberté, celle qui tous les jours vous envoie bosser? Il arrivera le jour de la belle, 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 belle où je démolirai vos pauvres barons. Fini le rigole, les amours et les lourdes peines.
Bruit de tôle, une émission qui veut agir pour la suppression des prisons et pour la remise en cause du principe de punition et de contrôle. Nous voulons nous attaquer aux murs plus ou moins visibles des institutions qui diffusent l'enfermement et la soumission dans tous les plis de la société, comme la famille, l'école, l'hôpital, les maisons de retraite, celles de la culture et bien d'autres. Le système judiciaire resserre l'étau sur les pauvres et les insoumis, les classes dangereuses en somme. Il enferme de plus en plus tôt, sous prétexte de délinquance juvénile, de plus en plus souvent, en allongeant la liste des délits et pour des peines de plus en plus longues. Et malgré une croyance tenace qui veut que la prison soit toujours réservée aux autres, la menace permanente qu'elle laisse planer sur l'ensemble de la population entretient la peur et la soumission. Longtemps tabou, la prison est devenue un sujet médiatique, à la mode, pour spécialistes de toutes sortes, sociologues, médecins, criminologues, politiques, occultant toujours la parole des personnes enfermées. Bruit de tôle se veut un espace de réflexion sur les enfermements, un lien entre l'extérieur et l'intérieur des murs. Ce que nous voulons, c'est mettre en évidence les rouages d'un ordre social qui prétend gérer nos vies, nous soumettre à l'État, et désamorcer, assimiler, digérer toute déviation, colère ou révolte. Nous rêvons d'une société sans maître ni esclave, sans coupable ni victime, sans juge ni condamné.
Vous écoutez Bruit de tôle sur Canal Sud 92.2, donc le jeudi en direct de 19h à 20h et en rediffusion le vendredi de 17h à 18h. Ce soir, on va vous parler, une fois n'est pas coutume, des Jeux Olympiques. Hein. Ça nous change un peu, mais on s'aperçoit qu'ils essayent de nous faire plein de petits stratagèmes et de petites techniques et de procédés qui discriminent et qui emmerdent un peu le monde, hein, faut le dire comme ça. Dans une deuxième partie, on parlera plutôt du sort qui est fait aux personnes immigrées, avec notamment l'expulsion d'un foyer Sonacotra, des intimidations policières et on parlera aussi des morts en mer. Et dans une troisième partie, on s'attachera plutôt à la répression et à la défense des mouvements sociaux. Et on terminera l'émission avec une annonce, comme habituellement. Donc vous pouvez nous appeler pendant l'émission au 05 61 53 36 95. Le jeudi, quand on est en direct, évidemment, et de préférence pendant les pauses musicales.
Thank you. et mer, coude à coude. Combien d'envols de chaînes, de paraboles nerveuses.
Je vous le disais dans le sommaire, on va voir toutes les petites saloperies qu'on nous prépare pour les Jeux Olympiques. Et notamment, depuis le printemps, les associations qui s'occupent des demandeurs d'asile et des personnes étrangères sans-abri en région parisienne, après plusieurs évacuations de campements et mises à l'abri, ils se sont interrogés sur le fondement juridique donc de ces transferts, et ils ont pu obtenir une circulaire non publiée des ministres de l'Intérieur et du Logement qui datait du 13 mars 2023. Donc elles disent en gros qu'une fois de plus, des règles concernant de nombreuses personnes étrangères sont édictées en catimini et viennent grossir le lot des circulaires non publiées. Et que contient cette circulaire ? Elle a pour objectif de tracer les lignes directrices pour la prise en charge administrative et l'orientation des personnes mises à l'abri dans le cadre des opérations menées en Île-de-France vers des SAS dits d'accueil temporaire. Ont ainsi été créés 10 SAS régionaux de 50 places maximum qui permettent de procéder à un examen systématique de la situation administrative des personnes, de proposer une orientation vers un hébergement adapté à leur situation et ou de prendre les mesures administratives qui s'attachent à leur situation en matière d'asile, de séjour et d'éloignement. La gestion de ces SAS d'accueil temporaire a été conviée à des associations opératrices de l'État. La FAS, qui est la Fédération d'associations dont font partie donc ces associations opératrices, a publié dès le mois de février 2023 un communiqué de presse intitulé « SAS régionaux, vigilance de la FAS au regard de la mise en place de lieux d'accueil en région ». Dans la circulaire, il est indiqué qu'après une durée maximale de 3 semaines, les intéressés seront orientés vers une solution correspondant à leur situation administrative. Il est prévu que les demandeurs et demandeuses d'asile seront orientés vers le dispositif national d'accueil, qui est déjà saturé, il faut quand même le dire. Les réfugiés seront orientés vers les centres provisoires d'hébergement. Les personnes en situation irrégulière recevront une proposition de départ volontaire et seront orientées vers le dispositif de préparation au retour. Et les personnes qui ne feraient pas l'objet d'une obligation de quitter le territoire exécutoire et qui souhaiteraient introduire une demande d'examen de leur situation administrative seraient dirigés vers le parc de l'hébergement d'urgence généraliste qui est, encore plus saturé, encore que le dispositif national d'accueil. Et évidemment, les personnes qui seraient sous le coup d'une obligation de quitter le territoire exécutoire seraient donc expulsées. Cette circulaire, qui est manifestement prise pour nettoyer l'espace public dans la perspective des Jeux Olympiques, permet d'orienter donc loin de l'Île-de-France les personnes à la rue qui auraient besoin d'un hébergement. Au mieux, c'est ça se constitue un pied-aller sous-dimensionné à un système d'hébergement déjà largement dépassé et insuffisant, qui va permettre d'héberger très temporairement des personnes sans abri. Au pire, il risque de déboucher sur le contrôle, l'arrestation et l'expulsion de personnes sans droit au séjour. Le fait que cette circulaire incite à davantage de retours volontaires et la demande récurrente de statistiques sur le nombre d'expulsions effectives rend bien compte des intentions du ministre. Ces lieux sont aussi des SAS d'expulsion. Dans tous les cas, cette mise à l'écart ne prend pas en compte l'avis des personnes sur la localisation de leur mise à l'abri, puisqu'elles sont dispersées au gré des places disponibles dans les différentes régions. Elles peuvent ainsi se retrouver très éloignées de leur famille, de leurs connaissances ou de leur point d'attache. La remise d'un formulaire indiquant la volonté de la personne prise en charge en SAS de bénéficier d'un examen au séjour fait partie des dispositions qui sont considérées comme inquiétantes par les associations. Si ce formulaire est signé par la personne alors qu'elle ne remplit pas les conditions pour bénéficier d'un titre de séjour, elle se verra notifier directement une obligation de quitter le territoire. Et ce, d'autant plus qu'il est prévu que des agents de l'Office français de l'immigration, pour donner des informations sur le retour volontaire et les possibilités d'être placés en hébergement, et des agents des préfectures chargés de l'accompagnement à la demande de régularisation, soient présents dans les SAS. Cette présence risque de ne pas laisser véritablement le choix aux personnes qui souhaiteraient refuser l'examen de leur situation administrative. Puisque le recueil de la copie des documents d'identité est prévu dans le cadre de cette procédure, il est de nature à faciliter la mise à exécution d'une mesure d'éloignement pour les personnes dépourvues de droit au séjour. Cette intention d'accélération des procédures est confirmée dans la circulaire qui prévoit, dans tous les cas, une obligation de quitter le territoire devra être édictée si la situation de l'étranger ne lui permet pas d'accéder à un titre de séjour. Cette consigne rappelle celle déjà prévue par une circulaire qui, avant d'autoriser une personne à se rendre dans ce dispositif, les préfectures s'assureront au préalable de l'éloignement contraint en cas d'échec au retour volontaire, au cas où certaines d'entre elles renonceraient à quitter volontairement la France. Depuis l'ouverture des SAS, plusieurs personnes ont été contraintes de déposer des demandes de titre de séjour. sans qu'on se soit assuré de leur réelle volonté d'effectuer cette démarche et sans vérification que les conditions pour bénéficier d'un droit au séjour étaient remplies. Parce qu'il faut savoir qu'il y a quand même aussi bon nombre de personnes qui sont en transit vers d'autres pays qui n'ont pas spécialement envie de demander à séjourner en France.
Et puis surtout s'il y a un refus.
Oui.
C'est surtout ça, c'est demander, on vous le refuse, donc là vous êtes expulsable.
Alors il y a aussi une prise systématique des empreintes sur place via BioWeb qui permet de faire les relevés en mobilité. La circulaire précise que ce relevé permettra d'identifier les personnes se trouvant sous le coup d'une obligation de quitter le territoire et d'apprécier son caractère exécutoire. Bien qu'elle indique que cette prise d'empreinte n'est pas une condition d'accès à l'hébergement, en pratique, la personne qui refusera de s'y soumettre risquera tout de même d'être mise à la rue rapidement. Et évidemment, il y a le cas des personnes donc, qui se trouvent sous le coup d'une obligation de quitter le territoire exécutoire. Ces personnes devront être considérées comme devant faire l'objet d'un éloignement, est-il dit dans la circulaire. Il est prévu dans cette hypothèse que l'examen actualisé de leur situation devra alors conduire à l'édiction d'une nouvelle obligation de quitter le territoire, possiblement assortie de mesures d'exécution. L'obligation de quitter le territoire pourra utilement être assortie d'une assignation à résidence. Au moins deux placements en centre de rétention ont été constatés, à Bordeaux et à Marseille, pour des personnes passées en SAS. Elles étaient en procédure Dublin et avaient déjà eu leurs arrêtés de transfert vers le pays européen responsable de leur demande d'asile. Dans certains cas, des assignations à résidence ont déjà été prononcées. Les ministères donc, de l'Intérieur et du Logement ont annoncé un objectif de 7000 personnes orientées par an vers ces SAS. Depuis avril 2023, 1600 orientations ont été faites, dont 500 personnes en famille. Plus de 25 opérations de mise à l'abri ont été menées en Île-de-France. Il y a de nombreux retours vers Paris de personnes orientées en région à la suite d'une fin de prise en charge. Les associations ont pu constater une insatisfaction quant aux conditions des prises en charge, ça on s'en étonne pas trop, ainsi qu'un mauvais accompagnement pour les demandes de protection internationale ou de régularisation de séjour. Enfin, selon les lieux, les SAS d'accueil temporaire fonctionnent de manière très différente, ce qui ne permet pas une prise en charge harmonisée et équitable pour toutes et tous.
C'est un nouvel outil pour filtrer et pour rafler les étrangers. Quoi. On continue sur les JO 2024. En fait, c'est le 16 juin 2023. Amara Diumassi, chef d'équipe de Daras et Joannin, des entreprises qui sont co-traitants de l'entreprise SAD, a perdu la vie, percutée par un camion de chantier qui faisait marche arrière, sans bip de recul, sans homme trafic pour guider le chauffeur et sécuriser la manœuvre, sans marquage au sol de sens de la circulation, sans protection de délimitation pour les piétons et sans aucune marge de manœuvre. Donc autant de graves manquements à la sécurité de l'employeur, bien sûr inacceptable, mais Amara est mort. Il est mort au pied de l'Institut médico-légal, lieu du chantier où son corps a été monté à pied, sans même faire retentir les sirènes des pompiers. Son corps a été envoyé au Mali pour les funérailles sans que ses proches et ses collègues puissent le voir une dernière fois. Donc c'est un communiqué où nous, ses amis, ses collègues, sa famille, nous avons besoin de nous recueillir et d'honorer sa mémoire. Nous lui devons la reconnaissance pour son existence, pour son travail et pour les conditions dans lesquelles il a perdu la vie. Donc vous avez vu que le 27 avril, il y a eu un hommage au métro Quai de la Râpée à Paris, devant justement l'Institut médico-légal, là où Amara est décédée. Alors, le chantier du bassin d'Austerlitz, sur lequel Amara travaillait, a pour objectif de rendre la Seine baignable pour les épreuves des Jeux Olympiques 2024. Chantier dont l'entreprise SAD, filiale du groupe Veolia, a la direction avec la ville de Paris pour donneur d'ordre. La mort d'Amara est une mort modeste qui contraste avec les Jeux Olympiques grandioses. Les chantiers concernant directement les JO, supervisés par la Solideo, ont bénéficié d'une protection de suivi par l'inspection du travail et les organisations syndicales à travers une charte sociale, qui a divisé par 4 le nombre d'accidents de travail. Pourquoi la charte sociale n'est-elle pas appliquée sur tous les chantiers liés aux JO et au Grand Palais? Cela aurait peut-être épargné la vie d'Amara. Malgré les cris d'alerte via les médias, les réseaux sociaux et l'interpellation de la plus grande instance représentative du groupe Veolia, le comité du groupe européen, nous n'avons encore rien fait pour rendre justice à Amara. L'entreprise SAD et la ville de Paris doivent s'expliquer. Nous demandons, toujours pareil, c'est ses soutiens, donc, les résultats de l'enquête de l'inspection du travail et de la gendarmerie. Les manquements à la sécurité de l'employeur doivent conduire à sa condamnation pour faute inexcusable et aboutir à une démarche au pénal. Si les conclusions le permettent, il s'agira de faire reconnaître pénalement la faute inexcusable de l'employeur. Amara laisse derrière lui 12 enfants. Orphelins de père, ils doivent être indemnisés. Donc ils réclament une réparation intégrale pour la famille Amara. Et aussi, eux ont la puissance financière, mais nous, nous avons la détermination et le nombre. Donc ça, c'était le communiqué qui dit que doit cesser le scandale des morts au travail. Amara n'est qu'un mort parmi tant d'autres. Un mort par jour dans la construction. C'est inacceptable. Amara est symbolique de toutes les victimes du travail qu'on cite dans la rubrique « Faits divers » des journaux, alors que les responsables s'en sortent souvent en toute impunité. Donc ça, c'est le délégué CGT, Lies Chouaï, qui a fait tout un travail sur cette mort, qui était Amara. Amara est née à Kai, au Bali, en 72, dans la communauté Soninké. Alors que ce pays du Sahel, doté d'une histoire séculaire, de richesses culturelles et naturelles exceptionnelles, subit la prédation de la France-Afrique qui surexploite ses sols et ses populations, les habitants du Mali comptent parmi les plus pauvres au monde. Dans ce contexte, Amara, devenu adulte, s'exile pour subvenir aux besoins de ses proches. Muni d'un visa temporaire, il est hébergé chez sa sœur à Paris. Il commence alors le parcours des milliers d'immigrés pour le travail. Contrat intérimaire avec alias... attente d'un titre de séjour, puis arrivent les CDD, les attestations, les premiers permis. Amara est précaire, mais n'a plus de sueur froide quand il croise la police. Il trouve un logement à Aubervilliers, un contrat fixe. Il a 12 enfants à nourrir. Au village, sa famille compte sur lui. Il accepte alors un poste de chef d'équipe maçon pour la société Dara Séjournin, co-traitant de la SAD, filiale de Veolia. Celle-ci est désignée par la mairie de Paris pour un chantier emblématique des JO, construire les bassins destinés à préserver la Seine des eaux usées. Comme beaucoup de travailleurs africains, Amara fait partie des bâtisseurs. Donc le 16 juin, il est percuté par un camion de chantier et il meurt. Panique au siège des donneurs d'ordre. Un accident sur le chantier d'Austerlitz. Étouffer l'affaire devient la priorité des communicants. La dépouille d'Amara est discrètement transportée à l'Institut médico-légal et renvoyée au Mali. Il s'agit de se débarrasser au plus vite de ce corps encombrant. Dans les bureaux de Dara Séjournin et de la SAD ou de la ville de Paris, plus personne n'entend parler du drame. Il ne s'est rien passé. C'était sans compter sur la détermination du délégué CGT de la SAD, Lies Chouaï. Scandalisé par les conditions du décès de son collègue et son invisibilisation. Avec une équipe de syndicalistes convaincus, il accompagne la famille, alerte les médias, organise la mobilisation pour exiger reconnaissance et justice pour Amara, sa famille et tous les morts invisibles au travail. Deux morts par jour, des dizaines d'accidents graves, des milliers de vies brisées par les produits toxiques, l'usure physique. Les violences psychologiques sont causées par l'exploitation capitaliste du travail. Les responsables sont rarement inquiétés. Au contraire, le gouvernement brutalise nos droits pour user davantage les corps et les esprits, de la réforme du lycée professionnel à la réforme des retraites en passant par celle de l'assurance chômage. La santé et la sécurité des travailleurs sont une priorité du combat syndical. Mais si ce drame nous rappelle la nécessité absolue de concevoir un autre rapport au travail, qui serait fondé non sur le sang mais sur le soin du travailleur, de son temps libre, du bien commun, l'histoire d'Amara invite à réfléchir à l'ensemble des processus de domination à l'œuvre. Exiger justice pour Amara est un combat syndical, mais aussi décolonial, territorial, écologique, social et démocratique. Sa trajectoire de vie recoupe l'ensemble des inégalités, des discriminations qui étouffent notre société et que le contexte des Jeux Olympiques 2024 à Paris accélère encore. Je trouvais important quand même de signaler cela, quoi.
Alors, on va continuer. On vous avait déjà parlé de l'occupation du collectif des jeunes du parc de Belleville, donc occupait la maison des métallos. Donc, cette occupation qui a été décidée afin d'interpeller sur la situation des mineurs isolés face aux Jeux Olympiques 2024, avec la multiplication des opérations policières et des menaces d'expulsion des gymnases pour envoyer les jeunes hors d'Île-de-France. Le collectif n'a cessé de demander à être reçu en délégation par la préfecture, avec le soutien de la mairie, hein, il faut quand même le noter, pour appuyer ses revendications sur le logement, la santé, l'école, la mobilité et les délais de recours. Les actions telles que les occupations étaient jusqu'à présent les seuls moyens qui ont fonctionné pour obtenir un minimum d'attention et arracher des places d'hébergement. Et à cette occasion, du coup, la Maison des Métallos est redevenue un lieu de lutte et d'organisation politique. Ça se passait sans tension, malgré les conditions de vie difficiles. Donc tous les jours, les services de l'urgence sociale et la police municipale passaient demander avec cynisme si tout va bien, si on n'est pas trop fatigué, demandant aux gens de la Maison des Métallos si bon, ils n'étaient pas trop fatigués, en gros, de faire le boulot que font pas les pouvoirs publics, quoi. Mais le vendredi 26 avril, il y a deux des occupants qui ont reçu une convocation au commissariat du 11e arrondissement. Il s'agissait d'un mineur qui est en recours pour avoir un titre de séjour et d'un militant du collectif 20e solidaire avec toutes et tous les migrants. Pourtant, et donc ils étaient accusés de vol en réunion et d'entrave concertée et avec violence ou voie de fait à l'exercice de la liberté de l'expression de la créativité, de la création artistique. Alors ça l'est quand même pas mal. Et pourtant, des collectifs qui ont appelé du coup à les soutenir devant le commissariat, ça se passait le 29 avril, ils indiquent que ni les deux militants, ni les collectifs dont ils font partie n'ont voulu quoi que ce soit, et que si la Maison des Métallos est effectivement contrainte d'annuler sa programmation artistique, ce qui est regrettable, les occupants et occupantes du lieu n'en sont pas responsables. C'est la mairie qui a imposé la suspension des événements culturels, alors que il y aurait tout à fait pu avoir discussion pour trouver une solution pour que ces deux sphères, on va dire, différentes cohabitent.
Et se rencontrent et discutent et échangent peut-être.
Aussi.
Et donc il faut bien séparer là. Hein.
Alors et bon, ils disent quand même que dès les premiers jours de l'occupation, ce même commissariat avait envoyé une douzaine de policiers armés menaçants et qui avaient provoqué l'ensemble des militants et militantes. Donc je lis un passage du communiqué qui dit que « Attaquer deux camarades choisis arbitrairement, c'est une vaine tentative de nous décourager qui dévoile la peur des autorités face à ce réseau de résistance qui s'étoffe et se renforce. C'est la première fois qu'un mineur isolé en lutte est convoqué de cette manière. » Alors que nous demandons depuis des mois à ce que les jeunes du collectif soient considérés comme de vrais interlocuteurs et interlocutrices, c'est seulement lorsqu'elles commencent à représenter une menace politique qu'on cesse de les invisibiliser. Nous savons que cette convocation s'inscrit dans la stratégie des pouvoirs publics français, qui jettent des dizaines de jeunes à la rue tous les jours, puis les orientent vers la Maison des Métallos, leur seule possibilité de se mettre à l'abri actuellement à Paris, ne remplissent pas leur devoir d'hébergement et refusent le dialogue avec les collectifs mobilisés, attendent que la situation dégénère à la Maison des Métallos pour ordonner l'expulsion. Donc les jeunes du parc de Belleville, ils réclament des choses assez simples. Hein. Ils réclament des hébergements dignes à Paris ou rester jusqu'à épuisement des recours, qu'ils puissent être ensemble et en lien avec les réseaux de solidarité, syndicats et associations. Ils demandent une attestation d'hébergement leur permettant de se déplacer sans être inquiétés par les forces de l'ordre, notamment pendant les Jeux Olympiques. Une couverture médicale digne et la création d'un centre de santé dédié avec accueil du jour, centre de soins, psychologue, laverie, cantine, salle d'eau, etc. Ils demandent l'accès aux restaurants solidaires de la ville de Paris pour se nourrir, l'accès à l'éducation publique et à une scolarisation sans condition, l'accès gratuit à la culture, l'accès au transport gratuit, comme tous les mineurs d'Île-de-France, le respect de la présomption de minorité et le raccourcissement drastique de la durée des recours. Donc on pourra le voir quand même, on savait déjà que les JO, ça entravait surtout les personnes pauvres, mais dans ces personnes pauvres, ça entrave les plus pauvres des plus pauvres, c'est les personnes sans abri et les personnes d'origine étrangère.
Je suis une des lettres de l'écriture. délier de ses plans. Quelqu'un d'elle
t'a menacé un désir sale.
Je ne suis sans doute quelqu'un comme toi, qu'un écho inaudible des lacunes humaines, l'épopée d'une langue vivante.
T'as menacé un désir sale, t'as menacé un désir sale.
La distance est si grande qu'il nous lie, les orthographes n'auront plus d'encre à leur dérive.
Sur Canal Sud, vous écoutez l'émission Bruit de Tôle en direct le jeudi. Et pour nous accompagner musicalement tout au long de cette émission, c'est Lojo avec son album La distance est si grande qui nous lie.
Alors du coup, on va un peu continuer dans la même veine quand même. Donc, depuis plusieurs années, la société Adoma, qui est anciennement Sonacotra, qui est une filiale du groupe CDC Habitat, qui appartient à la Caisse des dépôts et consignations, a lancé un plan de rénovation de son patrimoine immobilier et transforme ses chambres en petits studios plus confortables. Et qu'est-ce que ça a à voir avec Bruit de Tôle, me direz-vous? Mais c'est qu'en même temps, elle profite de cette nécessaire rénovation et de la transformation des foyers en résidences pour expulser les travailleurs immigrés retraités installés depuis des décennies. Parce que effectivement, dans ces foyers, il y avait plein de travailleurs qui sont venus s'installer en France depuis le début des années 70, quand le patronat et l'État cherchaient des travailleurs dans l'Afrique francophone pour fournir de la main-d'œuvre à de multiples secteurs économiques, notamment le BTP, l'automobile, le nettoyage. Et donc, c'est des personnes qui n'ont pas forcément du coup eu accès à d'autres types de logements, donc qui sont restées dans les foyers. Et ça prouve une fois de plus que dans notre pays, les intérêts financiers l'emportent sur la dignité, la santé, voire la vie des gens, puisque que vont devenir ces travailleurs immigrés retraités qu'on met à la rue? Alors la société Adoma invoque les besoins d'autres précaires pour justifier cette politique. Donc une petite mise en concurrence des précaires, c'est un peu moche, hein, on va le dire. Donc c'est vraiment le résultat de choix idéologiques qui domine tout, à commencer par le tabou du refus des idéologues qui nous gouvernent d'augmenter l'impôt et la contribution des plus riches. C'est toujours sur les mêmes comptables. Et donc en gros, Adoma, ils virent des travailleurs immigrés pour finalement faire des logements qui s'adressent aux étudiants, aux jeunes actifs, à d'autres personnes âgées isolées, à des familles monoparentales, aux femmes victimes de violences et qu'il faudrait protéger. Mais tout comme il faudrait protéger ces travailleurs immigrés retraités qui sont installés en France depuis des décennies. c'est vraiment un peu du foutage de gueule.
Puis surtout, il faut, parce que derrière le mot foyer, on pourrait penser que c'est des hébergements gratuits, mais c'est payant, il y a des loyers. Ce qu'ils veulent, eux, sûrement, c'est augmenter les loyers et avoir un public qui est encore plus subventionné par l'État pour avoir encore plus d'argent, quoi, hein. C'est surtout ça, hein, c'est la loi du fric.
C'est ça.
Et puis, on parle des migrants, ben on parle aussi des vies perdues en mer. C'est un communiqué du Justice sur le silence de la justice pour prix de l'impunité de l'armée. Alors, rappelez-vous, c'était en 2011, le 27 mars, un petit bateau qui a quitté Tripoli en Libye avec 72 personnes à bord. Au bout de 2 semaines en mer, à la dérive, il s'est échoué donc sur les côtes libyennes avec seulement 9 survivants. Personne n'a porté secours à ce bateau, malgré les signaux de détresse enregistrés par le Centre italien de coordination du sauvetage maritime, qui l'a localisé. Un certain nombre de contacts directs entre ce bateau en détresse et d'autres navires ont apparemment eu lieu, y compris avec un hélicoptère militaire qui a fourni des biscuits et de l'eau au bateau, mais n'est jamais revenu. Contact aussi avec 2 bateaux de pêche qui refusent tous deux de lui prêter assistance et avec un gros vaisseau militaire tout proche du bateau qui a ignoré ces signaux de détresse évidents. Au vu de ce drame, un ensemble de défaillances sont visibles. Les centres de coordination de sauvetage maritime italien et maltais n'ont pas pris la responsabilité de lancer une opération de recherche et de sauvetage. L'OTAN n'a pas réagi aux signaux de détresse, alors que ses navires militaires, sous son commandement, se trouvaient dans les parages du bateau lorsque le signal de détresse a été lancé. Alors ça, c'est un extrait du rapport de la Commission des migrations, des réfugiés et des personnes déplacées du Conseil de l'Europe. Vie perdue en Méditerranée, qui est responsable? Ce rapport date d'un an après, donc le 29 mars 2012. Donc à la suite de ce drame, 12 ans plus tard, qu'en est-il des plaintes? En Espagne et en Belgique, l'instruction a été close, par un non-lieu. En Italie, premier pays saisi de l'affaire à peine 2 mois après les faits, une importante enquête a été menée par le parquet militaire de Rome. Cette instruction, à ce jour, la seule à avoir clarifié à l'échelle européenne certains aspects de cet événement meurtrier, mais c'est néanmoins soldé par un non-lieu. Si les victimes poursuivent l'action au plan civil, les failles dans le dispositif national de recherche et de sauvetage identifié en 2012 par le Conseil de l'Europe peinent toujours à être mises en évidence. Alors en France, une instruction particulièrement bâclée a enterré l'affaire. Elle l'aurait enterrée si l'acharnement des parties civiles n'avait pas réussi à obtenir de la Cour de cassation puis de la Cour d'appel de Paris en 2022 l'infirmation de la décision du non-lieu qui avait été rendue 4 ans plus tôt. Mais un revirement qui laissait espérer aux plaignants et aux associations qui les soutiennent que plus de 10 ans après les faits, l'enquête enfin allait pouvoir commencer. Force est de constater que la justice française n'est guère pressée de répondre aux attentes. Les éléments qu'elle a entre les mains montrent pourtant qu'à 2 reprises au moins, l'état-major des armées a menti. D'abord en affirmant qu'aucune mission de surveillance en mer du secteur de dérive du Left to Die Boat n'avait été confiée aux aéronefs engagés dans l'opération, pour finalement reconnaître ensuite, plusieurs années plus tard, qu'un avion avait bien survolé le canot. Ensuite, en soutenant qu'aucun bâtiment français ne se trouvait dans le secteur traversé par ces boat people, alors que dans sa propre communication officielle, publiée en 2011, une carte attestait du contraire. Une inertie judiciaire d'autant plus choquante que les tribunaux français, italiens, grecs et britanniques sont beaucoup plus prompts à condamner les présumés passeurs à de lourdes peines de prison pour avoir conduit un bateau, tenu un GPS, appelé à l'aide, plutôt qu'à rendre donc justice aux rescapés de naufrage. Les lenteurs de la justice auxquelles s'ajoutent en France les mensonges de l'armée ne viendront pas à bout de la résistance des survivants de ce boat people. À leur côté, mais aussi pour la mémoire des 63 compagnons d'infortune qu'ils ont vus mourir sous leurs yeux, et pour toutes celles et ceux qui, depuis des années, sont victimes d'une politique meurtrière de contrôle des frontières, les organisations qui les soutiennent continuent à se battre pour que ces vies perdues ne passent pas par perte et profit dans l'indifférence générale. Donc c'est à l'appel de ASGI, Justi et Migre Europe.
On fait une petite pause musicale. Vous écoutez toujours Bruit de Tôle sur Canal Sud 92.2. Donc maintenant, on va revenir sur un travail très intéressant fait par le collectif Riposte Collective autour des positionnements politiques pour une défense collective au tribunal à partir du cas de 8 camarades inculpés pendant le dernier mouvement social, donc le mouvement des retraites. Alors, pour réfléchir à une défense sur la forme, il est nécessaire de vulgariser le langage très codifié qu'est le droit, d'étudier sérieusement le dossier et de nous renseigner sur les jurisprudences existantes. Cette démarche permet de nous appuyer sur les garanties que nous apporte le droit. Ce savoir juridique nous apporte l'assurance et le pouvoir d'inciter les avocats à être plus combatifs lorsqu'on pense qu'il le faut. À partir des éléments du dossier, les flics et les juges ne cherchent pas à établir la vérité, mais à construire un récit, celui de leur vérité. Le travail de défense sur le fond consiste, entre autres, à exploiter le décalage entre leur récit et les preuves, matérielles ou prétendues, compilées dans le dossier et à proposer un autre récit de vérité. Au récit de l'accusation, l'accusé oppose celui de sa défense. À la suite du mouvement social contre la réforme des retraites de 2023, nous avons participé à construire la défense juridique dans 4 affaires. 7 camarades ont été totalement relaxés, un 8e a été relaxé du chef d'accusation le plus grave retenu contre lui. Les différentes défenses que nous décrivons dans ce texte ont été victorieuses du fait d'un travail collectif et méticuleux. Ainsi, nous insistons sur l'importance des lectures et réflexions collectives autour des dossiers, de la vulgarisation collective des textes de loi et de la préparation des accusés à l'audience, échange, accompagnement par des camarades au rendez-vous avec l'avocat. Ce processus permet de se saisir collectivement du droit et permet à l'accusé de reprendre confiance, d'être à l'aise, pour ne pas se faire humilier ni marcher dessus par la justice moralisatrice et normalisatrice. Donc on va vous faire part de 4 exemples. Donc le premier exemple, c'est l'affaire de l'EHESS. Fin janvier 2023, au début du mouvement des retraites, des camarades se retrouvent en assemblée générale et décident d'occuper une salle du campus Condorcet. Alors que l'occupation commence à peine, une trentaine de flics débarquent et procèdent à une trentaine d'arrestations. Ils pensent faire un gros coup de filet, mais le président du campus s'engage à ne pas les poursuivre. Un seul camarade sera finalement poursuivi. Il sera accusé de violence sur personne dépositaire de l'autorité publique lors d'un transfert entre le commissariat et de port d'armes de catégorie D, en l'occurrence un couteau. Le keuf qui accuse le camarade porte plainte contre lui sans pour autant avoir fait de visite médicale. Sur le fond, il a été expliqué que la scène était confuse, violente et que le camarade a seulement tenté de se dégager du policier. Dans la construction du récit de la défense, les mots sont importants. Pour appuyer ce récit, la défense a fourni les témoignages de plusieurs autres interpellés qui étaient présentes lors de l'arrestation au commissariat ou dans le camion. Il a été relaxé sur les violences. Concernant le port d'armes, la photo jointe au dossier était celle d'un Opinel 13, un couteau de 30 cm. Les keufs ne l'auraient découvert que lors de sa 3e fouille. Pas très sérieux ces fouilles. Lors de la garde à vue, les flics ont montré aux camarades une photo d'un autre couteau, un petit couteau de camping. Le camarade a reconnu que ce couteau était le sien. Il est presque d'usage pour les flics de produire des procès-verbaux, aussi peu rigoureux que malhonnêtes. Du fait de cette audition, la défense ne pouvait pas plaider l'absence de couteau. Il a donc été décidé de fournir la facture du vrai couteau et de plaider la légitimité de son port. Le camarade était menacé. Cela a mené à une condamnation, amende avec sursis et interdiction de port d'armes pendant 3 ans. Malgré la pression que les keufs peuvent mettre, ne rien déclarer en garde à vue est primordial afin que le dossier soit le plus vite possible. Dans la plupart des dossiers, les keufs n'ont pas de preuves tangibles, même s'ils disent l'inverse, et la fonction de la garde à vue est d'en produire, par des déclarations, voire des aveux. On ne se défend pas en garde à vue, on se défend au tribunal, après avoir eu le temps, à tête reposée, de lire le dossier et de réfléchir à la façon dont on veut se défendre.
Alors, l'affaire des sandwichs. Un camarade est interpellé à la fin d'une des premières manifestations du mouvement des retraites, accusé d'avoir désarrêté une personne avant de s'être lui-même opposé à son arrestation. Poursuivi en justice pour, premièrement, groupement en vue de commettre des violences ou des dégradations, deuxièmement, rébellion ainsi que pour 2 délits qui s'ajoutent lors de la garde à vue, Troisièmement, refus de prélèvement ADN. Quatrièmement, refus de donner son code de smartphone. Les éléments matériels qui appuient ces accusations sont le contenu de la fouille et un appel téléphonique à l'agent interpellateur. La fouille contient un cache-cou, des lunettes de piscine, une photo floue, mal cadrée, d'objets pyrotechniques. L'appel téléphonique à l'agent arrive presque 2 jours après les faits présumés. Ce délai de réflexion lui permet d'enjoliver sa première version et de parler de coups de pied donnés par le prévenu. Le camarade se voit notifier ses droits 2 heures après le début de sa garde à vue. Pour justifier cette notification tardive, un procès-verbal de circonstances insurmontables est joint au dossier. Ce PV doit témoigner des circonstances insurmontables sur le terrain, propres à une interpellation précise. Ici, ce PV a été rempli par un flic de bureau, bien au chaud, bien loin de la manif. De plus, la manif s'était déroulée plutôt calmement, en ont témoigné des articles de journaux, et il n'y avait donc aucune circonstance insurmontable. Ces 2 points plaidés à l'audience démontrent la nullité juridique du PV. Il annule donc le PV de notification tardive des droits et tous les actes qui en découlent, l'entièreté de la garde à vue, dont les accusations de refus d'ADN et de crypto. Sur les éléments matériels, de par les objets imputés lors de la fouille, l'accusation tente de lui attribuer un profil de casseur black bloc. Il explique que le port du cache-cou sert à se protéger du froid en janvier. Les lunettes de piscine, nous recommandons plutôt des masques qui englobent l'arcade sourcilière, servent à se protéger des gaz. Les objets pyrotechniques ayant été détruits, aucune précision ne peut être ajoutée sur leur nature. Il est plaidé qu'il s'agissait de fumigènes festifs. Au manque de preuves matérielles pour accuser le camarade de rébellion et groupement, il répond une défense claire. Il explique, à la fin de la manifestation, il quitte le parcours avec le cortège de Sudrail qui distribue des sandwichs. Alors qu'il mange son sandwich, il voit une dame par terre et s'empresse de lui demander comment elle va avant d'être poussée par terre par un policier. La preuve est à la charge de l'accusation. Ce récit cohérent allant à l'encontre de celui des keufs permet de montrer que les preuves pour l'incriminer sont manquantes. Après 11 heures passées au tribunal un jour d'été, il est relaxé des 4 faits.
Alors, un autre exemple appelé « vide mouvant ». Lors d'une manif de janvier 2023, un camarade est interpellé. Il finit par sortir libre, avec une convocation pour une audition libre au commissariat. Il s'y rend et se voit donner une date de procès. Il est accusé de violence avec plus de 8 jours d'ITT sur personne dépositaire de l'autorité publique. Nous conseillons de ne jamais se rendre à une convocation au commissariat pour ne pas faciliter le travail de la justice. Et oui, il faut savoir que les convocations au commissariat ne sont pas tout à fait obligatoires. S'ils ont vraiment quelque chose contre nous et veulent nous poursuivre, ils emploieront de plus grands moyens. On y gagne beaucoup, toujours du temps et souvent le dossier se perd sans procès. Le dossier est vide. Le camarade a tenu le rien à déclarer pendant toute la durée de sa garde à vue. Aucun élément supplémentaire n'est versé au dossier. En plus d'être vide, ce dossier est construit n'importe comment. L'accusation évolue toutes les 2 pages. Violence sur personne dépositaire de l'autorité publique, sans ou avec interruption de travail, plus ou moins longue, aucune victime, puis groupement en vue d'eux, apparaissant uniquement sur la convocation au procès. Parmi plusieurs grossièretés du dossier, un procès-verbal fait débat. Le document attestant de la compatibilité de l'état de santé avec la garde à vue. Ce dernier a été modifié par le médecin afin de l'autoriser malgré la blessure constatée du camarade. D'autres accusés de la même manif ont un document similaire dans leur dossier. Cette bizarrerie, abusive mais loin d'être un cas isolé, est plaidée par l'avocate et appuyée par le récit du camarade. Lors de cette manif, les keufs ont chargé et fait pleuvoir les coups de matraque avant d'interpeller à l'œil sans aucun motif. C'est ce que retranscrit le dossier et le récit du camarade. Il est relaxé.
L'affaire des 5 de Clichy. Après le 49-3, dans un contexte de manif sauvage nocturne à Paris, 5 camarades se sont arrêtés dans la rue aux abords d'une permanence de LREM, le Républicain. Ils sont repérés et interpellés par la BAC, puis placés en garde à vue. 2 poignées de fer sont trouvées à côté d'eux. Ces 2 poignées, nommées barres de fer, sont jointes au dossier sans être dans la fouille d'une personne précise. Hormis cet élément matériel fragile, le dossier sera rempli par les réponses données lors des différentes auditions et par les informations présentes dans leur téléphone. Pour éviter ce genre de problème, nous recommandons de ne pas prendre son téléphone en action ou, le cas échéant, de refuser de donner son code. Les cinq sont accusés de groupement en vue de commettre des violences, des dégradations, en l'espèce avec deux barres de fer. Une camarade refuse de donner son ADN, une autre refuse de donner son code de téléphone. Lui aura gardé le silence durant toute la durée de sa garde à vue, y compris quand on lui demande son code. Tenir le « rien à déclarer » lorsque ces questions sont posées peut permettre au procès de jouer sur le flou du refus et d'adapter la défense. Pour prouver la participation à un groupement en vue de commettre des violences et des dégradations, les flics ont besoin d'une caractérisation morale et matérielle de ce groupement pour chaque prévenu. C'est-à-dire que l'accusation doit, d'une part, prouver que la personne prévenue y participe sciemment dans le but conscient de commettre des violences ou dégradations. L'accusation doit également prouver que la participation est caractérisée par un fait matériel. Ici, l'élément matériel qui constitue les barres de fer est fragile. Elles sont trouvées à proximité de l'interpellation. Chaque personne affirme ne sait pas savoir de quoi il s'agit. Et elles ont été détruites. Une quelconque enquête pour établir leur appartenance n'est plus possible. Elles ne sont attribuables à personne. La caractérisation morale est également compliquée à prouver. Si la permanence politique de LREM a pu être évoquée dans les informations récupérées par les flics, aucun plan précis n'est évoqué, tout est flou. L'avocate plaide ce double manque concret de caractérisation. Les prévenus racontent leur soirée et leur déambulation. Les concernés expliquent les messages présents dans le dossier. Le fait d'être à proximité d'une permanence, même dans un contexte où certains se font attaquer, ne prouve rien. Tous seront relaxés.
Nous pensons qu'une défense collective, profitable au mouvement et à tous les camarades, doit combattre les logiques de dissociation, d'innocentisme et de défense de profil. Cela implique une stratégie dite de rupture avec le tribunal. Par cela, nous entendons le fait de refuser de répondre aux attentes de la justice qui nous voudrait docile, qui attend de nous que l'on se plie à ses règles morales, que l'on s'excuse de choses qu'on aurait faites ou non. C'est adopter cette posture qui dépasse le débat moral et la justification personnelle, qui permet d'amener la lutte sur le terrain du droit et vise à reprendre l'offensive. Toutefois, nous ne prenons pas une offensive frontale, claire et énoncée. Nous pensons, à l'heure actuelle, que les débats politiques doivent avoir lieu entre camarades et non au tribunal. Notre but est de rester dans la matérialité des procès et de gagner pour un mouvement social plus fort. Pour ce faire, nous pensons qu'une connaissance des procédures, des jurisprudences, des lois et de leurs faibles et de leurs failles ne peut que nous être bénéfique. Le droit nous apporte des garanties, utilisons-les. Refuser l'innocentisme, c'est refuser de s'intéresser à l'innocence ou la culpabilité des camarades dont on fait le suivi. En dépit des désaccords stratégiques et politiques qui peuvent exister, ce qui nous intéresse est de nous défendre collectivement de notre ennemi commun, la justice. Cela passe lors de l'audience par le fait de se défendre sur le plan matériel et non moral, se défendre de l'absence de preuves suffisantes, ne se concentrer que sur ce qui nous est explicitement reproché, refuser de tenir un discours larmoyant sur sa prétendue innocence. Le refus de la dissociation en découle. La dissociation, c'est le principe de dissocier les bonnes des mauvaises manifestantes, catégorie créée par les keufs et les juges, et de se placer du bon côté. Dire qu'on est une bonne manifestante, c'est de fait discréditer des pratiques et insinuer qu'il y en a de mauvaises. La dissociation va toujours dans le sens de la répression et joue contre notre camp. Toutes les manières de manifester et de se révolter existent et peuvent être pertinentes. Si elles peuvent être discutées, nous pensons que cela doit se faire entre camarades et certainement pas auprès de nos ennemis. La justice cherche souvent davantage à punir des individus et leurs opinions que des faits. Elle cherche à adapter, individualiser la peine. Matériellement, cela se traduit par le fait que les personnes qui ne répondent pas aux attentes de l'ordre établi, avoir un travail, une famille, un logement, une conduite exemplaire, se retrouvent de facto en position défavorable face à la justice et écopent de peines plus lourdes. Refuser la défense de profil, c'est refuser cette individualisation. C'est d'abord, quand on est déféré, quand on va au tribunal après la garde à vue, refuser de répondre à l'enquête sociale. Cette étape est vicieuse, car l'enquêteur social est présenté comme une sorte de psy sympa à qui on a envie de parler, mais c'est un keuf, il ne faut rien lui dire. C'est ensuite refuser lors du procès de répondre aux questions sur sa personnalité. C'est affirmer verbalement qu'on ne souhaite être jugé que sur les faits dont on est accusé. Cela permet de niveler des différences de jugement. C'est une façon concrète d'être solidaire des marginaux en tout genre. mais c'est aussi refuser de laisser les juges et les procs s'immiscer dans notre vie privée, juger notre intimité. Nous ne leur devons rien.
Donc là, c'est riposte collective, c'est cela, si vous voulez retrouver un petit peu ces éléments
On peut retrouver effectivement ce texte et d'autres de riposte collective sur les internets, comme on dit. Et donc, on va terminer Brutol avec une annonce. Donc, une rencontre avec Marie Cosnet et Emilien Bernard autour de leur livre « Des îles » paru aux éditions de l'Ogre et « Forteresse Europe » paru aux éditions Luxe. Donc, une rencontre intitulée « Les frontières tuent » et qui aura lieu le mardi 14 mai à 19h à la librairie Terra Nova, 18 rue Gambetta à Toulouse.
Et juste un petit clin d'œil, en ce moment, à la librairie Terra Nova, Jean-Marc Rouillan est avec l'auteur d'un livre sur Ulrich Meinhof, des luttes du temps jadis, mais des luttes toujours présentes dans nos têtes.
Alors, c'est Brutol qui se termine, donc on se retrouve dans 15 jours pour une nouvelle émission. En attendant, vous pouvez nous écrire à bruit de tôle, bruit au pluriel de tôle, detoles@no-log.org ou nous envoyer un courrier, une carte, tout ce que vous voulez à bruit de tôle, Canal Sud, 40 rue Alfred Duméril, 31400 Toulouse. Et force et courage à toutes les personnes enfermées, que ce soit en CRA, en prison, ou dans les asiles, ou dans toutes ces maisons.
La liberté, c'est toute l'existence, mais les humains ont créé les prisons, les règlements, les lois, les convenances, les ateliers, les bureaux, les maisons, et les raisons, alors disons, mon vieux copain, la vie est belle. Quand on connaît la liberté, n'attendons plus, partons vers elle. L'air pur est bon pour la santé, partout, si l'on en croit l'histoire, partout. On peut rire et chanter, partout, on peut aimer et boire. À nous la liberté, à nous la liberté. Pourquoi faut-il se compliquer la vie pour de l'argent se faire des cheveux alors qu'on peut vivre à sa fantaisie? Quand on est libre, on fait tout ce qu'on veut, on est heureux selon ses voeux. Mon copain, la vie est douce, vivons ce que vivent les fleurs, ne pas en foutre une secousse. C'est là le secret du bonheur, partout, si l'on en croit l'histoire, partout, on peut rire et chanter, partout, on peut aimer et boire. À nous la liberté, à nous la liberté. Il ne faut pas songer au mariage, quand on est fait pour courir les chemins, en attendant d'être assagi par l'âge, contentons-nous d'amour sans lendemain. C'est le destin, mon vieux copain, la terre est ronde. Les femmes vont de tous côtés, quand on sera au bout du monde, il sera temps de s'arrêter partout, si l'on en croit l'histoire, partout, on peut rire et chanter, partout, on peut aimer et boire. À nous la liberté, à nous la liberté.